la CBC à Don Cherry.
Bonjour, I'm gonna be dead.
Dans l'avant-match, on a le coach. Éric Lavigne.
Comme à chaque jeudi, c'est avec un immense plaisir que je rejoins le coin du coach avec Éric Lavigne dans l'avant-match. Salut, Éric.
Salut, Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci toi-même.
Oui, merci. Quand tu analyses une transaction, est-ce qu'automatiquement tu donnes l'avantage à l'équipe qui obtient le meilleur joueur?
Quand c'est des joueurs d'aussi gros impact, t'as pas le choix d'y penser. On avait vu Pacioretty en début de semaine. Là, on arrive avec Carlson aujourd'hui. C'est que en même temps, avant d'analyser la transaction, je suis obligé de te dire, je trouve tellement ça triste, Dan, ce qui se passe. T'sais, c'est rendu que les équipes sont même plus capables de garder leurs joueurs jusqu'à la fin de leur contrat. Les joueurs ont le contrôle total sur le fait de dire « J'y vais-tu ma dernière année? » Quand ils veulent pas poursuivre, ils donnent un paquet d'indices. L'an passé, on a vu Tavares dans son équipe finir l'année sans vouloir jamais re-signer. Tout ça fait en sorte que je me mets en peau des gens d'Ottawa aujourd'hui. Ça doit faire très mal. Là. Tu dis « On a développé un joueur, on a réussi à faire de Carlson un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. » Le nombre de billets qu'on vendait à cause de ce gars-là, c'était excitant. Même si des soirs, tu savais que tu gagnais pas, tu disais que ce serait excitant de le voir jouer. C'est un peu triste de voir ce qui se passe. Puis pour revenir à ta question originale, oui, quand des gros noms sont en place, tu dis tout le temps que très souvent, tu regardes qui a reçu le gros nom et tu peux pas faire autrement que penser que c'est le gagnant de la transaction.
Éric, quand on est... Tu te souviens l'année où il n'y a pas eu de hockey, on a recommencé en 2005. Ça a fait en sorte que Sidney Crosby et Alexander Ovechkin ont joué la même année leur premier match parce que Ovechkin avait été le premier choix des Capitals en 2004, mais il n'y a pas eu de hockey en 2004-2005. Quand on reprend en 2005, la Ligue nationale nous arrive avec un plafond salarial. Et il y a peut-être des auditeurs qui l'avaient oublié, mais je veux juste rappeler à ces gens-là que le plafond salarial en 2005, pas en 1933, là, en 2005, donc il y a 13 ans, c'était 39 millions par équipe. Donc, 2005 à 2018, il s'est écoulé 13 ans. Le plafond cette année est à 80 millions. Ça a doublé.
Oui, puis on ne ferait pas juste regarder ça. Ça nous fait encore plus mal au cœur quand on pense à Québec, parce qu'on se dit... Le plancher d'aujourd'hui est plus haut que le plafond d'antan. Ça, exact. Ça fait encore plus mal, puis ça nous fait poser des questions sur c'est-tu pour ça que même si on a un amphithéâtre, on ne réussit pas à avoir une équipe à Québec?
Probablement.
On est obligé de se la poser, la question, là. Parce que la capacité de payeur des gens de Québec, oui, on a une population qui gagne bien sa vie, mais c'est pas une population qui est extrêmement riche.
Non.
Par rapport à d'autres grosses villes. C'est une population qu'il va falloir qu'ils fassent des économies pour être capable de payer ces salaires-là. Puis c'est pas beaucoup, 13 ans, Dan, quand tu parles, en penses à ça, pour qu'il ait réussi à doubler le plafond salarial. Puis là, il va y avoir une nouvelle convention collective qui va être signée bientôt, qui ira pas vers le bas, là.
Mais non.
Et les joueurs ont le plein contrôle. Je sais qu'ils ont trop longtemps, ils ont été exploités. Quand on pense aux anciens qui doivent se dire aujourd'hui, c'est épouvantable l'argent qu'on a perdu. Mais d'un autre côté, là, le contrôle appartient aux joueurs. Puis une organisation. Ça vient encore plus donner de valeur à l'expression d'âme quand on parle. Quand l'équipe a une fenêtre de gagner à Coupe Stanley,
arrange-toi pour la gagner.
Pour essayer d'en profiter.
Ouais.
Parce que la fenêtre, elle se ferme vite, puis c'est souvent une fenêtre guillotine. Tu vois que tu réussis pas à passer, puis tu es plus capable de payer tes joueurs.
Tu fais bien de le souligner. Puis l'autre chose que je vais ajouter aux auditeurs, du 39 millions aux 80. C'est quand on a lancé ça en 2005, c'était parce qu'on était tanné que les Rangers de New York donnent 83 millions de salaire, puis que les Red Wings de Détroit ou le Canadien, il y avait des équipes riches, puis on s'est dit, on va équilibrer ça. Mais 13 ans plus tard, finalement, on a couru à notre perte parce qu'on n'équilibre pas ça pantoute. Tu l'as dit dans l'intro, tu trouves ça triste que des équipes ne sont pas capables de garder leurs bons joueurs à long terme. Puis à la dernière année du contrat de Tavares, ça a été la même chose avec Pacioretty et maintenant c'est le cas avec Carlson parce qu'il restait une année à son contrat. C'est la panique pour les échanges parce qu'on n'a plus les moyens de les payer.
C'est exactement ça. Tu viens de le résumer parfaitement. En plus de dire je signe un gars pour 5 ans, tu ne le signes pas pour 4 ans. C'est 4 ans puis il faut que tu te dépêches de le signer dans l'année d'après pour qu'il vale vraiment son 5 ans. Sinon, tu le perds pour rien. Puis l'effet Tavares va avoir des impacts. Là. C'est de valeur, là, mais Carlson... Reculons dans le temps. Si vraiment on avait voulu changer Carlson, si vraiment on avait voulu changer Pacioretty, puis le monnayer de la bonne façon, ça aurait été fait à la période de transaction dans le temps, au mois de mars. Parce que là, c'est un club qui donne un coup pour gagner la Coupe Stanley. Là, c'est même plus ça. C'est une question de chiffres. On est-tu capable de le payer? Ça va-tu juste être un joueur de location? On n'entendait pas ça avant. Mais ça vient surtout dire qu'à la base du hockey, tout le phénomène de sentiment d'appartenance, il vient de prendre le camp, pas à peu près, puis il vient de prendre le champ. Tu te dis, tu peux plus. Le joueur, on parlait que c'était des business, là, mais la dernière semaine vient de nous le démontrer encore plus. Puis ça dénature un petit peu l'hockey. C'est la réalité du sport professionnel, on le sait. Mais à un moment donné, c'est sûr que pour le partisan, quand ça vient de tomber dans ta cour, c'est plus qu'un coup de pied derrière.
OK, tu m'as dit, tu m'as souvent dit dans nos jasettes en ondes, Dan, un club qui est bourré de talent, là, je vais te dire de quoi, là, pour le casse-tête du coach, pour l'avantage numérique, c'est pas si stressant. C'est pas mal mieux gérer le talent que gérer des gars qui en ont pas. Je me souviens de t'avoir entendu dire ça souvent. Carlson s'en va à San Jose. Ça fait en sorte qu'il va avoir Burns et Carlson sur l'avantage numérique. Ça devrait être un peu tannant. Pacioretty s'en va jouer sans lui manquer de respect, je dirais, sur le deuxième trio avec Paul Stachny, parce qu'ils avaient déjà Riley Smith, Carlson et Marchessault sur la première. Il y a des équipes qui se retrouvent avec un surplus de talent, mais j'ajouterais à Toronto, et ça va être ça le sens de ma question, j'ajouterais à Toronto l'arrivée de Tavares, on se questionne un peu, ouais, ça va être qui le capitaine? Aujourd'hui, Babcock fait une sortie, il dit, mes assistants capitaines, il n'y en aura pas de capitaine. Ça va être Morgan Riley, Patrick Marleau puis John Tavares. Et en série, on se souvient que Don Cherry et bien d'autres avaient critiqué Babcock pour l'utilisation de Matthews. Babcock, aujourd'hui, en disant que Matthews ne sera pas adjoint au capitaine, il est-tu en train de l'isoler dans le coin?
Il y a deux choses. Je pense qu'on a déjà parlé, puis tu viens d'en parler. Il ne sait pas c'est de quoi dans les séries. Il ne sait pas c'est de quoi dans les séries qu'il va peut-être laisser des traces. Sauf que quand tu regardes à Toronto, on revient un peu avec la vieille méthode, là. On est allé où on donne un rôle de leader et de capitaine et d'assistant. J'entendais Yvan Cournoyer cette semaine dire qu'il a attendu 11 ans avant d'être capitaine à Montréal. Sauf que on donne le leadership aux plus vieux. Et ça, on revient à la bonne vieille formule d'antan où le club, avec les vétérans aguerris, les vétérans établis vont établir le leadership dans la chambre. Matthews, ça lance un petit peu un message de dire, es-tu tout le temps enthousiaste? On trouve des fois qu'il a l'air taciturne, puis il parle pas, puis il n'y a pas beaucoup d'émotion. Ils ont pris la décision d'y aller avec trois adjoints, trois vétérans. Tu te poses la question, oups, ils veulent-tu passer un message aux jeunes? Ou ils veulent vraiment que les trois vétérans, ou ils ont réalisé que le jeune n'est peut-être pas prêt non plus? C'est que ils ont eu au moins le décence de le faire rapidement dans la saison, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'ils fassent attention, parce que là, avec leurs joueurs vedettes, puis avec l'arrivée de Tavares, mais il va falloir qu'ils rendent heureux Matthews aussi.
Si ça fait 12 ou 13 ans que tu es dans la Ligue nationale, puis tu apprends que ton capitaine, c'est un kid de 19 ou 20 ans, qui vient juste d'arriver dans l'équipe depuis 2 ans, tu prends-tu mal ça?
Tu le prends mal quand tu n'as pas d'équipe. Quand tu n'as pas d'équipe, tu te dis, voyons donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis tu te dis, quand tu as une bonne équipe, la victoire, là, elle camoufle bien, bien des affaires. Puis je le dis tout le temps, un bon esprit d'équipe, ça va bien quand tu gagnes. Puis un bon capitaine, il a toujours l'air meilleur quand tu gagnes. Puis, tu sais, je prends souvent l'exemple qu'on compte des recettes, on raconte des histoires, ces recettes de la Coupe Stanley. Qu'est-ce que l'équipe a fait? Qu'est-ce que le coach a fait? On pense à l'histoire à Jacques Demers avec la carte la dernière fois que les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley. Mais ça se fait à peu près à tous les années, sauf que les années que tu gagnes pas, t'en parles pas. Mais l'année que ça marche, le capitaine, quand t'as une bonne équipe, ça va bien, on parle donc de leadership. Tu sais, la déclaration à Vegas cette semaine, on a 23 leaders. Dan, on a joué au hockey, on a travaillé dans un paquet de business dans notre vie.
Oui.
Il n'y a pas 23 leaders d'une équipe de 23, là. C'est pas vrai.
Non.
C'est facile à dire quand tu gagnes puis tout va bien. Puis quand il n'y a pas de négativisme autour d'une équipe parce qu'elle gagne, ça change la donne. Puis quand tu parles, c'est-tu mieux avec des plus vieux? La clé, c'est quand tu mets un jeune, souvent c'est un club en reconstruction, tu repars la machine. Dans ce temps-là, c'est plus facile à accepter. À Toronto, on est rendu à l'étape qu'il faut gagner, là.
Oui, c'est ça, ça. En fait, c'est un peu mon point pour San Jose et Vegas aussi qui vont chercher des Carlson puis des Pacioretty. C'est des équipes qui sont condamnées à gagner. Il y a une semaine ou deux, on jasait ensemble puis on faisait le portrait des équipes de bas de classement qui sont condamnées à gagner, mais condamnées à accéder aux séries. On parlait, je pense, de Buffalo, de Columbus, oui, de la Caroline puis d'Edmonton. Mais là, c'est à un autre niveau. C'est les meilleures équipes de la Ligue qui s'ajoutent une pression de gagner puis d'aller loin en série. Puis c'est la même chose pour Tampa Bay, là.
C'est la même chose pour Tampa Bay, t'as raison, mais je pense que Vegas, c'est un cas exceptionnel. Ils ont tellement surpris la planète hockey l'an passé que là, ils sont sur une ballonne de se dire, tant qu'à être là, on rassaye-tu. Ils ont perdu deux joueurs, ils ont perdu Neil, puis ils avaient tassé Perron. Ils remplacent avec Stachny et Pacioretty, pas pire. T'sais, ils sont partis sur le fait que eux autres, ils étaient sur une ballonne, puis on se dit, tant qu'il y a une bonne vague, on continue. Mais un club comme San Jose, on vient de tomber dans la palette de ce qu'on a dit tantôt. Eux autres, ils savent que la fenêtre est en train de se refermer, là. Ils ont les Burns, ils ont des Thornton, ils ont des Vlasic. Ils se disent, on est rendu pas mal à l'année que si on veut gagner, il en reste plus tant que ça des années.
Ouais.
Et ils l'essayent. Ils essayent le tout pour le tout. Puis ils font bien. Ils font bien. Puis la structure salariale leur permet. C'est go, on essaie, parce qu'avec Carlson, l'avantage de San Jose, ils n'ont pas juste ramassé un excellent défenseur, ils ont ramassé aussi un excellent attaquant, parce que tu ne sais pas s'il joue à défense ou à l'attaque tellement qu'il est bon offensivement. C'est que eux autres, ils ont calculé qu'ils ont passé proche une coupe d'années, puis là, ils viennent de calculer qu'on est pas mal dans nos dernières années d'avoir une bonne chance. On l'essaye, puis c'est le tout pour le tout.
En donnant deux choix de repêchage, puis quatre joueurs, je dirais, assez inconnus, merci, si jamais, et je dis si jamais, Carlson ne s'entend pas après la prochaine année de contrat avec les Sharks, je pense même pas que Doug Wilson va être critiqué pour la transaction d'aujourd'hui.
Il va avoir eu le courage d'essayer. Puis moi, je pense que dans ces conditions-là, les agents sont tellement puissants aujourd'hui que je suis convaincu que Wilson, avant de faire la transaction, il a parlé avec l'agent de Carlson. Ils le diront pas tout de suite pour pas avoir l'air fou parce que Carlson a refusé un gros contrat à Ottawa. Mais Wilson, avec l'expérience qu'il a, t'as raison qu'il serait pas critiqué, mais je suis convaincu qu'il a fait ses devoirs, puis il a déjà tenté le terrain, puis l'agent lui a dit s'il faisait partie des destinations qu'il voulait se retrouver, parce que c'est trop gros pour risquer de le perdre après un an, mais ton point de départ de dire il sera pas critiqué, c'est vrai parce qu'on tombe pas en bas de notre chaise personne là, par rapport à ce qu'ils ont donné. Là.
Exact, il a pas touché à son noyau, puis il ajoute Carlson, tout comme les Golden Knights, qui n'ont pas touché à l'équipe qui était en finale de la Coupe Stanley puis qui a ajouté Pacioretty.
C'est exactement ça. Puis c'est ça pour les deux clubs. Puis c'est pour ça que ces deux clubs qui vont être des aspirants à tout gagner. Puis c'est pour ça que ces deux gérants qui ne seront pas critiqués, même si ça n'a pas marché. Puis d'avoir assez. Tu sais, c'est une loterie, Carlson. Là. Il y avait plusieurs équipes dans la course. Ça n'a pas fonctionné à certaines places. Mais moi, je pense même que ça n'a pas fonctionné parce que Carlson doit avoir mis son veto certaines fois, puis il s'est rendu compte qu'au niveau contrat, ça fonctionnait pas. Mais si San Jose a fait la transaction à cette date-ci, je suis quasiment convaincu qu'ils ont des garanties, que les chances, et peut-être pas à 100%, mais que les chances sont très fortes qu'il va accepter de re-signer là. Puis c'est pas une mauvaise place, là. J'entendais Marc-Édouard en parler tantôt. Puis juste nous autres, sans le savoir, s'il faisait trop beau comme aujourd'hui, là, on aimerait peut-être ça aller jouer au camp sans dames.
Exact. Un gros merci, Éric. Bonne soirée à toi.
Merci, Dan.
Salut bien. Éric Lavigne, le coin du coach dans l'avant-match chaque jeudi.